Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 25 juin 2024. En direct de Washington, Rosine Monenzero. Pour commencer, les titres. Le chef de la junte malienne, Assimi Goïta, a été en visite au Burkina Faso, sa deuxième à l'étranger après la Russie. Au Kenya, au moins 5 personnes ont été tuées dans des manifestations anti-gouvernementales qui ont viré au chaos à Nairobi. C'est la fin d'une longue saga judiciaire. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, est sorti de prison et devrait retrouver la liberté après avoir plaidé coupable. Et dans notre partie magazine, le président Félix Tshisekedi de la RDC est en visite de travail de 24 heures au Tchad. Au cours de cette visite, M. Tshisekedi s'est entretenu avec les jeunes.
Je voudrais ici adresser un message particulier à la jeunesse tchadienne. Vous êtes les véritables artisans de l'avenir de votre pays. Ne perdez jamais de vue vos rêves et vos ambitions pour une nation unie, pacifique et prospère.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le chef de la junte malienne, Assimi Goïta, était en visite mardi au Burkina Faso, sa deuxième à l'étranger après la Russie. Sur place, notre correspondant Lamine Traoré nous fait le point sur cette visite.
Le président de la transition du Mali, Assimi Goïta, est arrivé à midi, heure locale à Ouagadougou, à l'aéroport. À son accueil, le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. À l'aéroport aussi, la communauté malienne était présente pour accueillir son président. Dans les rues à Ouagadougou, la visite de Goïta n'est pas un fait banal. Des Burkinabés pensent que cela témoigne de la bonne coopération et de l'excellence des relations entre les deux pays, chose qui permettra de lutter efficacement contre le terrorisme. Les questions sécuritaires, la lutte contre le terrorisme ont été au centre des échanges entre les deux chefs d'État. Au moment où je parle, le président Goïta a terminé sa visite et a quitté Ouagadougou, une visite qui aura duré quelques 3 heures. Le président de la transition du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, lui avait déjà été reçu par le colonel Assimi Goïta en novembre 2022, soit un mois après son coup d'État. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Mali, un collectif de partis politiques opposés à la junte et l'ONG Human Rights Watch ont dénoncé mardi l'incarcération de 10 opposants comme une nouvelle attaque du pouvoir contre les libertés. 10 membres du collectif ont été placés en détention lundi après avoir été arrêtés le 20 juin alors qu'ils participaient à une rencontre chez l'un des leurs à Bamako. Les 10 personnes incarcérées ont été inculpés pour complot contre les autorités légales et une réunion illégale, ont indiqué leurs avocats. Les 2 anciens présidents béninois, Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo, sont en visite à Niamey au Niger depuis hier. Ils sont allés offrir leurs bons offices pour apaiser la tension entre les deux pays depuis le coup d'État qui a renversé le régime du président Mohamed Bazoum. Ils ont rencontré aujourd'hui le chef de la junte, nous dit notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Thomas Yayi Boni et Nicéphore Soglo ont été reçus en milieu de journée en audience par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdrahmane Tchiani, en présence du premier ministre Ali Mohamed Lamine Zène. Pas de déclaration à leur sortie d'audience. La suite de leur séjour à Niamey n'est pas connue alors que des sources béninoises indiquent qu'ils y sont pour au moins 72 heures. Plusieurs sujets sont au centre de la tension entre Niamey et Cotonou depuis le coup d'état militaire du 26 juillet 2023. Le blocus frontalier sous fond de préoccupations sécuritaires soulevées par le Niger, la reprise du transit pétrolier par la réouverture des ventes du pipeline acheminant le pétrole nigérien vers le port béninois de Sémé et l'incident diplomatique qui est allé avec concernant les 5 ressortissants nigériens arrêtés, jugés et condamnés au Bénin, perçus comme un kidnapping par Niamey. Il faut ajouter qu'hier, en Conseil des ministres, les autorités nigériennes ont décidé de réactiver un projet de transport du pétrole brut nigérien par pipeline via le Tchad. Un comité a été mis en place à cet effet. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La mission de l'ONU en République démocratique du Congo, MONUSCO, a fermé mardi son bureau de Bukavu, quartier général de ses opérations dans le sud Kivu, dans l'est du pays, depuis plus de 20 ans, poursuivant son retrait tel que réclamé par Kinshasa, qui la juge inefficace. Il reste trois bases, Mikenge, Minembwe et Uvira, qui ont cessé leurs opérations selon la MONUSCO et doivent être transférées à l'armée congolaise dans les prochaines semaines, ajoute le texte. Au Kenya, au moins 5 personnes ont été tuées aujourd'hui lors d'un mouvement de protestation contre le gouvernement qui a viré au chaos à Nairobi. Des manifestants ont pénétré dans l'enceinte du Parlement. Les précisions de Yakuba Ouedraogo.
Un communiqué de plusieurs ONG évoque en plus une trentaine de personnes blessées lors de cette journée de mobilisation à travers le pays contre les projets de nouvelles taxes du gouvernement débattus au Parlement. Ces organisations de défense des droits humains parlent de tirs à balles réelles, de tirs de balles de caoutchouc et indiquent avoir relevé au cours des dernières 24 heures 21 cas d'enlèvement de personnes par des officiers en uniforme ou en civil. La tension est montée dans le centre des affaires de Nairobi, où se tenait la troisième manifestation en 8 jours d'un mouvement baptisé « Occupy Parliament », entendez occuper le Parlement. Il s'oppose au projet de budget qui prévoit l'instauration de nouvelles taxes, dont une TVA de 16% sur le pain et une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules particuliers. Les manifestants ont forcé les barrages de la police pour pénétrer dans l'enceinte où les députés venaient d'approuver les amendements au texte qui doit être voté d'ici le 30 juin. La police a repris le contrôle des lieux. Le gouvernement a annoncé le 18 juin retirer la plupart des mesures, mais les manifestants demandent le retrait intégral du texte. Nous condamnons la violence sous toutes ses formes et nous appelons au calme, a déclaré une porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche.
Plus de 10 pays occidentaux se sont déclarés profondément préoccupés par les violences au Kenya mardi. Les ambassades et les missions diplomatiques de 13 pays, dont le Canada, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis, se sont déclarés dans une déclaration commune particulièrement choqués par les scènes qui se sont déroulées devant le Parlement kenyan. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, est sorti de prison au Royaume-Uni. Le lanceur d'alerte australien devrait retrouver la liberté demain mercredi après avoir plaidé coupable devant un tribunal américain. Cet épilogue d'une longue saga judiciaire. Le point avec Jean-Roger Billon.
Julian Assange, 52 ans, se battait depuis 14 ans pour ne pas être livré à la justice américaine qui le poursuit pour avoir rendu public à partir de 2010 plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Dans un accord avec la justice américaine, le ressortissant australien a accepté de plaider coupable ce mercredi devant un tribunal des îles Mariannes du Nord, archipel en mer des Philippines appartenant aux États-Unis. Il devrait être condamné à une peine déjà purgée de 62 mois de détention, puis ressorti libre du tribunal. Les Nations Unies ont salué cette libération, estimant que l'affaire avait soulevé une série de préoccupations en matière de droits humains. Pour le gouvernement australien, l'affaire Assange a traîné en longueur depuis trop longtemps et son maintien en détention ne présente plus aucun intérêt. L'ancien vice-président américain Mike Pence a lui qualifié l'accord de fausse justice qui déshonore le service et le sacrifice des hommes et des femmes des armées américaines.
La Cour pénale internationale a annoncé mardi avoir émis des mandats d'arrêt contre le chef d'état-major russe Valery Gerasimov et contre Sergei Shoigu, ministre de la Défense jusqu'en mai dernier, pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés en Ukraine. Ils sont accusés de porter la responsabilité de frappes de missiles menées par les forces armées russes contre les infrastructures électriques ukrainiennes. L'armée israélienne a bombardé mardi la bande de Gaza où une frappe a tué 10 proches du chef du Hamas, selon la défense civile, pendant que les États-Unis pressent Israël d'éviter une nouvelle escalade à la frontière avec le Liban. De son côté, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, poursuit sa visite à Washington 2 jours après l'annonce par le Premier ministre Benjamin Netanyahou que la phase intense de la guerre contre le mouvement islamiste palestinien était proche. L'organe chargé de la lutte contre l'immigration clandestine en Libye a rapatrié mardi vers leur pays 174 Nigérians en situation irrégulière selon les autorités libyennes. Ces opérations qui sont effectuées par avion ou par la route selon les nationalités vont se poursuivre au cours des prochaines semaines, a affirmé le général Mohamed Bareda, responsable de la sécurité de cette institution qui dépend du ministère de l'Intérieur. Le nombre de migrants qui ont perdu la vie ou ont disparu au cours de leur voyage migratoire sur des routes à l'intérieur ou à partir de la région MENA en 2023 est passé à 4984 contre 3820 en 2022 selon un rapport de Missing Migrants, un projet de l'OIM. Et voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Au Ghana, face à la crise, les cacaoculteurs forcés à la contrebande en passant clandestinement la frontière avec la Côte d'Ivoire pour vendre leur production à un meilleur prix. Le secteur du cacao au Ghana, qui représente environ 10% du PIB du pays, dépend fortement des petits exploitants et fait vivre 1 million d'habitants sur les 33 millions que compte ce pays d'Afrique de l'Ouest. L'Égypte doit importer environ 1,18 milliard de dollars de mazout et de gaz naturel afin de mettre fin aux coupures d'électricité persistantes, a déclaré ce mardi le premier ministre Mostafa Madbouly. Lundi, le gouvernement égyptien a étendu les coupures d'électricité quotidiennes à 3 heures contre 2 auparavant en réponse à une augmentation de la consommation d'électricité domestique durant la dernière vague de chaleur. Un rapport du G20 propose un impôt minimum mondial sur les plus riches. Le rapport Zucman évalue le taux d'imposition actuel des milliardaires à 0,3% de leur patrimoine. La philosophie d'un impôt mondial sur les plus riches est déjà soutenue au G20 par le Brésil, la France, l'Espagne et l'Afrique du Sud. Les États-Unis se sont en revanche dit contre.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ousine, bonsoir à tous.
La Fédération malienne de football convoque son capitaine.
Oui, le capitaine des Aigles, Amari Traoré, est convoqué d'urgence par sa fédération pour donner des explications à propos de ses sorties sur les réseaux sociaux concernant la gestion du football au Mali. Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako, nous en dit plus.
Il nous revient avec insistance que vous faites des publications sur les réseaux sociaux par rapport à la vie interne de l'équipe nationale du Mali, malgré notre communiqué de mise en garde. Par conséquent, nous vous invitons à vous présenter devant le comité exécutif sous 48 heures. Telle est l'essence de la demande d'explication adressée à Hamari Traoré en date d'hier lundi 24 juin 2024. Hamari Traoré répondra-t-il oui ou non à la convocation de la fédération ? On ne saurait répondre pour l'instant. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis un certain temps, il y a un véritable malaise au sein de l'équipe nationale senior du Mali. Plus proche de nous, au compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre Madagascar, le 11 juin dernier en Afrique du Sud, les joueurs maliens sont arrivés seulement quelques heures avant le démarrage du match. Le score, pour rappel, un nul vierge de 0-0 deux jours après, soit le 13 juin dernier, le sélectionneur Eric Sekouchel est limogé. Une décision qui fera des mécontents parmi les joueurs, selon certaines sources. Et depuis quelques jours, le capitaine Hamari Traoré et ses coéquipiers ont indiqué sur les réseaux sociaux que si la situation de mauvaise gouvernance reste inchangée, ils se réserveront le droit de ne pas honorer la sélection nationale et de ne pas participer au prochain match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
Football toujours avec les nouvelles de l'Euro 2024. L'Italie arrache sa qualification pour les huitièmes de finale.
Dans un groupe relevé, la championne d'Europe en titre a pris la deuxième place du groupe B derrière l'Espagne grâce à son match nul 1-0 arraché dans les dernières secondes contre la Croatie de Luka Modric. La Aurora s'est imposée 1-0 devant l'Albanie, assurant sa première place avec 3 victoires en 3 matchs. En huitième de finale, l'Italie va affronter la Suisse samedi au stade olympique de Berlin.
Ici aux États-Unis, la Copa América se poursuit.
Maladroit et malchanceux, le Brésil a raté son entrée en lice en concédant un match nul 0 but partout contre le Costa Rica à Los Angeles. Mené par Vinicius Junior, le Brésil a multiplié les occasions sans parvenir à marquer, au grand désespoir de Neymar, star blessé présente en tribune pour soutenir ses compatriotes. Cette mauvaise entame brésilienne permet à la Colombie, vainqueur du Paraguay 2-1, de prendre seule la tête du groupe D avec 3 points. Le Brésil aura la pression dès vendredi pour sa deuxième rencontre face au Paraguay à Las Vegas.
Le Merci à Cuba. Aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président Félix Tshisekedi de la RDC est en visite de travail de 24 heures au Tchad. Il a reçu des mains de son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, la distinction la plus élevée pour son rôle dans la gestion de la crise tchadienne. André Kodmandigar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Félix Antoine Tshisekedi a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du Tchad, une distinction pour ses efforts et sa contribution dans la crise tchadienne pendant les 3 années de la transition qu'a connue le pays. Pour lui, le chemin vers la paix est souvent parchemin d'embûches, mais il est impératif, dit-il, de rester engagé pour restaurer un avenir meilleur pour tout le peuple d'Afrique.
Cette décoration est en ce sens un appel à poursuivre notre engagement. Elle nous rappelle l'importance de l'unité et de la coopération régionale dans la réalisation de nos objectifs communs. Chaque pas vers la paix, chaque effort pour la réconciliation renforce notre conviction que l'Afrique peut et doit devenir un havre de paix et de développement. Je voudrais ici adresser un message particulier à la jeunesse tchadienne. Vous êtes les véritables artisans de l'avenir de votre pays. Ne perdez jamais de vue vos rêves et vos ambitions pour une nation unie, pacifique et prospère.
Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a déclaré qu'au début de la transition, Félix Antoine Tshisekedi, à l'époque président en exercice de l'Union africaine, a été un soutien de taille.
Le président Félix Tshisekedi a été l'un de ceux qui ont eu une compréhension lucide de la situation, avec pour seule intention d'aider le Tchad à se relever. L'accord de Kinshasa n'a pas été une simple formalité. Vous avez été l'âme et le cœur de ces pourparlers. Grâce à votre soutien qui a été constant jusqu'à la tenue des élections, notre pays a pu terminer sa transition dans le délai accordé. Ce dénouement heureux prouve à suffisance que les Africains sont plus que capables de résoudre les crises africaines s'ils résistent aux pressions et ingérences extérieures.
En plus de cette distinction honorifique, une avenue en pleine capitale a été baptisée au nom de Félix Antoine Tshisekedi. Pour l'ancien ministre de la Justice, professeur Ahmad Mahamat Hassan, c'est une reconnaissance pour sa contribution pour la paix et la stabilité au Tchad, mais aussi et surtout une sorte de conseil et d'évaluation sur ce qui reste de l'accord de Kinshasa.
Après la transition et les élections qui ont vu la participation du premier ministre et de son président, l'ex-premier ministre Mastra Succéa Sangare était lui-même candidat contre son président. Il a perdu les élections. Il y a eu des contestations, mais aujourd'hui, il n'est plus premier ministre remplacé par un nouveau premier ministre. Est-ce que ça pourrait pas inaugurer une sorte de nouvelle revendication politique? Et c'est par rapport à tout ça qu'il est en N'Djamena, au-delà de la recherche et de la critique intellectuelle. Mais c'est quelque chose qu'on peut saluer pour sa contribution. Mais il faudrait qu'il continue à consolider la paix. Il ne faut pas que la paix soit circonstancielle et fixée seulement à la période de transition.
Félix Antoine Tshisekedi a reçu également à huis clos Dr. Succéa Masra, président du parti Les Transformateurs, qui conteste toujours les résultats de l'élection présidentielle du 6 mai dernier. Mais pour l'instant, rien n'a filtré de leur entretien. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Sénégal, la baisse des prix de certains produits de première nécessité est entrée en vigueur lundi, mais la mesure est pour l'instant très peu suivie sur le terrain. Elle était d'ailleurs au cœur d'un bras de fer entre l'État et les meuniers, mais ces derniers ont finalement lâché du lest ce mardi. La correspondance de Warani Johnson Sambou.
Après avoir rejeté la nouvelle baisse des prix, les meuniers du Sénégal sont finalement revenus sur leur décision de suspendre la production de farine. Ils acceptent de se conformer aux nouveaux tarifs fixés par les nouvelles autorités en vigueur depuis lundi. Mais bien que très peu suivis par les commerçants, les Sénégalais se réjouissent de la mesure. Pour Maurice Thiao, enseignant, la baisse des prix des denrées de première nécessité arrive à point nommé.
La baisse est venue au bon moment, parce qu'en tant que même fonctionnaire de l'État, donc je trouve que c'est un soulagement en tant que parent de père de famille d'avoir ces baisses sur les denrées de première nécessité. C'est une bonne chose et nous demandons que le gouvernement puisse mieux faire parce que la vie au Sénégal est très chère. Nous les invitons aussi à regarder de l'autre côté, c'est-à-dire le côté du logement, la location, parce qu'au Sénégal, il n'y a que ces deux aspects qui sont très, très, très pénibles pour les pères de famille. En tant que fonctionnaire, il est difficile de joindre les deux si on veut mettre la famille à l'aise.
Mais nombreux sont les Sénégalais qui jugent la baisse insignifiante par rapport à l'inflation des produits de base qui a atteint des taux records ces trois dernières années. 38,9% pour le riz ordinaire en détail et 62,2% pour le mil selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Tailleur de profession, Moustapha Faye ne cache pas sa déception. Pour dire vrai, je m'attendais à plus qu'une baisse de 25 ou 35 francs, mais je ne sais pas comment ils ont géré pour avoir cette diminution. Donc avec les efforts qu'ils ont faits, je peux espérer qu'ils vont faire plus, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Au-delà des attentes, la grande inquiétude des Sénégalais reste le respect des mesures par les commerçants. La baisse des prix des denrées était l'une des grandes promesses de campagne du président Bassirou Diomaye Faye. Et ce n'est que le début, annonce le camp du nouveau régime. Wahani Johnson Sambou Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Julian Assange, fondateur de Wikileaks, va plaider coupable demain mercredi d'avoir violé la loi américaine sur l'espionnage. Cet agrément avec la justice américaine va mettre fin à la détention du lanceur d'alerte en Grande-Bretagne et lui permettre de retourner dans son Australie natale, marquant la fin d'une longue bataille judiciaire. Pour en savoir plus, Jean-Roger Billon a joint à Londres Henry Ridgewell, le correspondant en langue anglaise de la Voix de l'Amérique en Europe occidentale.
Oui, je pense que l'affaire a été une casse-tête diplomatique pour l'administration de Joe Biden, qui a fait face à des pressions de la part de l'Australie, qui est un allié important de sécurité nationale. Également, Biden a subi la pression des défenseurs de la liberté de la presse, notamment des plusieurs journaux et des organisations de défense des droits humains. Peut-être il ne voulait pas que cette décision pèse sur lui pendant la campagne électorale américaine, surtout lorsqu'il tente d'obtenir les voix des citoyens américains de gauche.
Dans cette affaire Assange, il y avait comme un choix à faire entre la justice et les droits de l'homme, lequel des facteurs a prévalu?
Oui, peut-être je pense que si vous parlez à l'un ou l'autre camp, ils diront qu'aucune des deux n'a gagné cette bataille. Les partisans de Julian Assange affirment qu'il n'aurait jamais dû être imprisonné, qu'il effectuait un travail important en tant que journaliste dénonçant les violations des droits humains et que l'accord qu'il a conclu avec les États-Unis porte atteinte de la liberté de la presse. Ils veulent une grâce totale du président américain. Mais à l'autre camp, le ministère américain de la Justice n'a pas commenté sur l'accord, mais ils ont déclaré que Assange avait publié du matériel volé mettant en danger la vie des informateurs et portant atteinte à la sécurité des États-Unis. Ils ont initialement inculpé Assange de 18 chefs d'espionnage.
Au bout du compte, quel avenir pour les lanceurs d'alerte?
Oui, maintenant je viens de parler à Reporters sans frontières et à des experts en journalisme ici à Londres, et ils sont convaincus que l'accord conclu entre les États-Unis et Assange porte atteinte à la liberté de la presse. Ils comprennent parfaitement pourquoi il a accepté cet accord. Il est en mauvaise santé et n'est pas libre depuis 13 ans. Mais ils affirment que Assange, acceptant un plaidoyer de culpabilité, créait un dangereux précédent pour la sécurité des journalistes. Il veut qu'il soit libéré sans condition.
Henry Ridgwell, correspondant en langue anglaise de la Voix de l'Amérique en Europe occidentale.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
À l'occasion de la parution annuelle de son rapport sur le trafic d'êtres humains, le département d'État américain a récompensé 10 lauréats pour leur travail dans la lutte contre la traite humaine et le trafic de migrants. Parmi ces héros de la lutte contre l'exploitation des personnes figurent cette année deux Africaines, une Kenyane et une Malienne. Oumou Niaré est magistrate au Mali et également présidente du Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Dili Diko s'est entretenue avec elle au département d'État américain à Washington.
Nous travaillons effectivement avec les victimes qui sont statistiquement parlant d'abord des femmes, ensuite des enfants. Et nous évoluons autour justement de quatre piliers. D'abord la prévention, parce que notre première mission, c'est vraiment d'informer, de former le maximum de Maliens sur ce que c'est que la traite des personnes, sur ce que c'est que le trafic illicite de migrants, et comment reconnaître justement ces phénomènes. Nous assistons aussi les victimes. Par rapport à la prise en charge avec des organisations internationales telles que OIM. Nous assistons ces victimes aussi au niveau des juridictions. Nous les assistons lorsqu'il le faut pour leur retour, quand ce ne sont pas des Maliens ou des Maliennes, pour leur retour dans leur pays respectif.
Quels sont les obstacles et les défis auxquels vous devez faire face pour mettre en œuvre les différentes mesures que vous prenez ?
Les obstacles sont d'ordre économique. C'est vrai, le gouvernement du Mali a fait beaucoup d'efforts par rapport au budget parce que le comité a un budget qui lui est alloué chaque année. Et ce comité, ce budget qui est alloué, nous l'utilisons vraiment pour non seulement secourir les victimes, mais aussi former, informer les populations. Et nous demandons toujours à ce que ce budget soit relevé. Et d'ailleurs, le budget alloué a été relevé pour 2024. Mais nous demandons encore beaucoup plus de soutien par rapport à l'aspect financier, non seulement au gouvernement malien, mais aussi à nos partenaires qui font déjà beaucoup. Mais dans cette lutte, il faut toujours plus. Il faut toujours qu'on fasse plus et qu'on le fasse ensemble.
En tant que juriste, pouvez-vous nous dire s'il existe un cadre légal satisfaisant en place au Mali pour lutter contre le trafic humain et la traite des êtres humains ?
Le texte spécifique relatif à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées date de 2012. Donc après quelques années d'implémentation, nous avons compris qu'il y avait beaucoup d'insuffisances parce que le trafic illicite de migrants dans ce texte était considéré comme une pratique assimilée. Donc nous avons mis en œuvre d'élaborer deux textes distincts pour être conformes justement au protocole que le Mali a ratifié. Donc un texte de loi sur la lutte contre la traite des personnes à part et un texte de loi sur le trafic illicite de migrants. Donc ces deux textes sont déjà prêts et ces deux textes sont au niveau du Parlement pour l'adoption.
À votre avis, quelles mesures faudrait-il prendre au Mali pour lutter davantage contre le trafic des êtres humains ?
Il faut d'abord plus de conscientisation des populations elles-mêmes. Parce que pour connaître quelque chose, il faut apprendre, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on sensibilise les personnes. D'abord les femmes, parce que ce sont les plus grandes victimes, et aussi les enfants. Donc nous allons tout mettre en œuvre d'abord pour que, au niveau des écoles, et nous avons déjà commencé au niveau des écoles, au niveau des universités, que le trafic illicite de migrants, tout comme la traite des personnes, soit des infractions connues, en tout cas des phénomènes connus, à travers le Mali et au niveau de toutes les couches de la société.
C'était Oumou Niaré, présidente du Comité national malien de la lutte contre la traite des personnes. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rosine Monezero à ce micro, à la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.